Vous vous apprêtez à écouter le 100e épisode de Bouffon. Pour fêter ça, nous l'avons enregistré en compagnie d'auditeurs et d'auditrices sur Zoom pendant un peu plus d'une heure de direct. En voici une version montée et raccourcie, en quelque sorte le solilèse de notre échange.
Vous n'avez rien contre les omelettes ?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Leistari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients, oui,
tout, j'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzel.
Oh bon, non, merci. Vous pouvez déguster ce que je mange.
Why am cooking so good?
Ah, là, c'est bon.
Je me suis assise par terre dans mon salon pour me mettre dans l'ambiance, car aujourd'hui, nous allons parler ensemble de pique-nique. Et qui dit pique-nique dit souvent nappe sur le sol posée sur un coin d'herbe. Mais puisque dans mon appart, étrangement, il n'y a pas d'herbe, j'ai rassemblé quelques plantes autour de moi pour me donner vaguement l'illusion d'être dans la nature. Alors pique-nique, avant de commencer à vous présenter les deux invités qui m'accompagnent aujourd'hui pour en discuter, un petit mot sur le choix de ce sujet. Pourquoi parler de pique-nique à l'occasion de ce 100e épisode de Bouffon ? Eh bien, parce que chez Nouvelles Écoutes, on s'est aperçu qu'après ces quelques semaines de confinement à se tenir loin de nos proches et être privé de la possibilité de humer le grand air, on a absolument envie de toutes et tous se retrouver, manger un bout ensemble, partager un chouette moment, et donc, si possible, pas entre quatre murs. Et qu'est-ce qui synthétise absolument tout ce cahier des charges ? Eh bien, le pique-nique. En plus, tout le monde connaît ça, les pique-niques. Qu'ils soient préparés à l'avance ou achetés tout fait, les pique-niques portent toujours en eux un projet. Parce que ce qu'on mange en pique-nique, on ne le mange pas confortablement assis chez soi devant une table, avec la cuisine pas loin et tous les ustensiles qu'il faut à portée de main. Un pique-nique, ça se prévoit, ça s'organise, ça s'imagine. L'idée, c'est de s'installer dehors, dans une petite bulle éphémère, de se façonner à l'extérieur comme un espace intérieur. Et c'est donc en quelque sorte une expérience d'appropriation de l'espace, comme une extension pirate de la salle à manger. Faire sien le temps de quelques heures, un lieu qui appartient d'ordinaire tellement à tout le monde qu'il n'est plus vraiment à personne. Et ce qui est fantastique avec les pique-niques, c'est le côté démocratique de la chose. On apporte ce qu'on veut, à la hauteur de son portefeuille, et on le pose au milieu. On mutualise, on partage. Le but, c'est de toute façon de se retrouver ensemble. Parfois parce que c'est moins cher que d'aller au resto, d'autres fois parce qu'on est au milieu d'une journée à la montagne et qu'il faut bien se ravitailler et reprendre des forces. Le pique-nique, c'est aussi une activité intemporelle et presque universelle. On le retrouve dans toutes les classes sociales et il a traversé les époques. C'est simple, tant qu'il y aura des humains, des choses à manger et le besoin de se nourrir, il y aura des pique-niques. Il y a aussi les pique-niques militants, au cours desquels l'idée est de donner un rendez-vous à des gens qui partagent une même cause, par exemple les opposants à la centrale nucléaire du Tricastin dans la Drôme. Ils sont réunis cette année dehors avec leur pain, leur conserve, leur radis pour casser la croûte ensemble et manifester contre les vieux réacteurs de la centrale. Alors pour parler de pique-nique, nous avons la chance aujourd'hui d'être avec l'universitaire Francine Bardeloisy, géographe, maîtresse de conférences et enseignante. Francine Bardeloisy a beaucoup travaillé sur les géographies des parcs et des jardins. Elle a organisé le premier colloque sur le pique-nique en 2006 et a dirigé l'ouvrage de référence qui s'intitule « Pique-nique, l'éloge d'un bonheur ordinaire » en 2008. Avec Francine Bardeloisy, on a notamment parlé des différents styles de pique-nique à travers le monde.
Européen, ça. Le pique-nique, on va chercher son coin pour être tranquille. C'est très européen. Ça existe quasiment nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'en général, quand on va faire un pique-nique, surtout au Moyen-Orient, au Proche-Orient, je pense à l'Iran, évidemment, parce qu'en Iran, c'est un art. Ça fait partie de l'art de vivre. C'est une fête nationale. Et tous les Iraniens du monde, de la diaspora iranienne, pique-nique le 13e jour de la nouvelle année, s'appelle Sezde Bedar, le 13e jour de Nowruz, qui est la nouvelle année, et les Iraniens du monde entier pique-niquent ce jour-là.
Mais avant ça, on va discuter avec Raphaël Marchal. Raphaël Marchal est journaliste culinaire. Elle a démarré dans le secteur de la gastronomie en 2014 avec son blog En Randonnion. Et aujourd'hui, elle collabore à différents médias et elle est autrice de plusieurs livres, dont Passion pique-nique, qui vient juste de sortir aux éditions Michel Lafon. Pour Raphaël Marchal, le pique-nique est intimement lié à l'expérience de la randonnée pédestre, notamment à la montagne.
Alors je sais qu'il y a des super restaurants de montagne un peu partout et il m'est arrivé d'en faire, mais je crois que j'ai été très très influencée par mes parents Gabine qui me disaient on n'est pas des valises, quoi. On ne va pas aller se foutre dans les restaurants d'altitude pour manger un gratin de crozet trop cuit avec plein de touristes. Enfin, tu vois, c'était un peu le truc. Nous, on n'est pas comme ça. Même s'il neige, tu sais, on s'arrête et on mange nos œufs durs. Et puis surtout, il y a un truc que je ne savais pas, que j'ai appris par Daniel Gerkins, avec qui j'ai été l'invitée d'une émission récemment, et qui disait qu'en fait, le pique-nique, c'est la meilleure façon de se créer des souvenirs pour toute la vie, parce qu'en fait, les souvenirs ne s'ancrent dans notre cerveau que si les cinq sens sont activés. Donc en fait, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'un pentagruélique pique-nique au Pays Basque entre les potiocs et ton sac à dos, ton VTT, les montagnes et la mer, que d'un resto, parce qu'en fait, le fait d'avoir vraiment le vent dans la figure, les odeurs de partout, le ressenti de la peau moite, tu vois, du sel qui ressort et tout, bah, ça fait qu'en fait, ça va s'ancrer, et puis évidemment, le goût, beaucoup plus profondément en fait en toi. Et c'est vrai que mes souvenirs les plus forts, il y a souvent un pique-nique dans les parages, quoi.
Quels sont les grands classiques selon toi, Raphaël, d'un pique-nique?
Bah, les grands classiques, je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est vrai que très souvent, c'est des tomates, un tube de mayo, des chips, un sandwich au jambon, un paquet de gâteaux. Enfin, ça, je pense que c'est le pique-nique tel que tout le monde le conçoit. Une belle bouteille d'eau en plastique. C'est vrai que bon, mes pique-niques ils ressemblent pas trop à ça. Moi, j'aime bien l'idée de emporter tout ce qui s'emporte normalement pas, quoi. Donc, je me suis retrouvée quand même petite avec les idées de mon père dans mon sac à dos, c'est-à-dire des oreilles de cochon, de la langue de bœuf, des pieds de porc, enfin des trucs délicieux et complètement logiques pour un pique-nique, bien sûr. Mais bon, c'était très bon. Et puis, en fait, il y a un truc aussi, c'est que tu trouves tout bon, hein. Tu sais, quand t'as marché, que t'as faim, que t'en peux plus, que t'as mal partout, on te propose du sang de cochon à l'ail et à la gentiane, tu trouves ça fabuleux, hein. Donc, voilà. Mais après, c'est vrai que moi, j'aime bien mélanger à la fois les restes, par exemple, d'un gros dîner la veille, parce que les pique-niques, c'est souvent le week-end, c'est un jour où t'as le temps, donc... Il y a de fortes chances pour que le vendredi soir ou le samedi soir, la veille, il y ait eu gros gueuleton à la maison. Donc, si tu as fait, par exemple, un poulet rôti, des légumes au four et tout, hop, tout ça, tu le fous dans une boîte en inox, en verre ou en plastique réutilisable à l'infini. Voilà, moi, je n'ai pas jeté tous mes Tupperware parce que je les utilise depuis toujours et que, de toute façon, autant les user jusqu'à la corde. Et aussi, une autre partie un peu de choses cuisinées nous-mêmes, donc une belle quiche ou un cake salé, une salade, des rouleaux de printemps, des petites brioches salées fourrées. On peut même faire des babkas salées, ça y a une recette qui est trop bien dans le livre, etc. Et ensuite, une autre partie de petites choses qu'on va justement ajouter sur le chemin, parce que souvent, là où on fait nos grandes randos, c'est des coins qui ont un terroir assez fort, que ce soit le Pays Basque, la Corse, l'Alsace, la Bretagne, la Normandie. C'est des coins, si tu veux, où il y a quand même une sacrée identité culinaire et un sacré patrimoine de bouffe et de producteurs. Donc voilà, après, sur le chemin pour ton point de départ de rando, tu complètes avec un super pain à la châtaigne, un bon fromage, un super saucisson, un gâteau. Voilà, et puis après, des gourdes, si c'est l'été, des gourdes d'eau fraîche avec un peu de menthe. Il faut éviter les boissons sucrées parce qu'en fait, même si ça peut être très très bon, une super citronnade un peu sucrée, c'est vraiment pas la bonne idée pour se déshydrater. Donc si on veut aromatiser un peu l'eau, moi je mets souvent... une rondelle de citron, une rondelle d'orange ou un peu de menthe et tout. Et puis, si c'est l'hiver, et ben en fait, les gourdes isothermes, elles sont trop bien. Tu mets une super soupe maison, genre potimarron, châtaigne, noisette, des trucs comme ça, c'est trop bien. Parce que, ouais, on ne pique-nique pas que quand il fait 30 degrés, que c'est le mois d'août et que c'est les grandes vacances. On peut pique-niquer n'importe quand. On peut faire un pique-nique pour l'apéro, pour le petit-déj. S'il fait un peu froid, c'est sympa, quoi. On prend des gros plaids. Voilà.
Moi, je dirais, dans les grands classiques du pique-nique, il faut forcément un endroit, un truc un peu gluten ou pâte. Enfin, en tout cas, il faut du pain ou, je sais pas, une tourte, quelque chose de ce type. Mm-hmm. Des tartinables aussi, c'est assez important. Ouais. Sachant que du coup, dans les erreurs communément faites quand on organise un pique-nique, il y a aussi le fait de pas, discuter avec les gens avec qui on va se retrouver pour le pique-nique et donc se retrouver ensuite avec 5 caviars d'aubergine, mais 0 baguette de pain. Ça, c'est toujours un peu frustrant.
C'est clair.
J'aime bien aussi quand il y a des fruits et des légumes de saison, tout simplement. Des sardines à l'huile, des boîtes de conserve comme ça, un saucisson sec aussi, Et moi, mon petit plaisir, c'est de préparer des choses, de ramener des plats vraiment que j'ai préparés en amont. Et parce qu'à chaque fois, je vois dans les yeux de mes proches, je vois le bonheur. Genre, oh mais non, t'as vraiment fait ça, t'as vraiment fait cette cassolette, tu t'es vraiment démenée. Et ça marche bien en général parce que il y a toujours dans la tablée ou dans la nappée, je sais pas si ça se dit, mais dans les gens assis sur la nappe, il y aura toujours les gens qui auront préparé le pique-nique à la dernière minute, qui seront juste passés dans un supermarché. Et je suis trop contente quand il y en a aussi.
Ouais.
Donc c'est un échange de bons procédés en fait, cette histoire de pique-nique. Il y a vraiment un partage. Et moi je voulais te demander, Raphaël, toi qui donc adore les pique-niques, est-ce qu'il y a des astuces que tu peux partager avec nous, des trucs pour vraiment améliorer l'art de pique-niquer?
Moi je pense que le plus important c'est quand même le coin et la rando, c'est-à-dire que il faut pas marcher 20 minutes et puis s'asseoir et faire demi-tour, c'est-à-dire que pour qu'on se souvienne du pique-nique, qu'il soit mythique et qu'il soit beau et que vraiment on ressente des trucs quand on s'assoit et qu'on déballe tout, il faut que on soit parti quand même pour un bon moment. Je pense qu'un pique-nique réussi, on est parti de la maison à 10h, on est rentré à 17h quoi. Je crois que vraiment l'effet justement d'avoir passé du temps dehors à marcher, à se dépenser, d'avoir pris son temps pendant le pique-nique, de remballer, puis de toute façon tout ce qu'on n'a pas mangé, on ressort pour l'apéro le soir, hein, c'est très bien. Moi, il m'est arrivé d'emporter une galette des rois parce que c'était en janvier et que je trouvais ça trop sympa de tirer les rois en haut de la montagne. Bon, il n'y avait plus de galettes, hein, c'est un amassis de miettes et de frangipane et c'était trop bien quand même. Donc en fait, je pense que ça fait partie du jeu. On ne fait pas un pique-nique sac à dos sportif pour faire le Marie Kondo du pique-nique, tu vois. C'est pas grave, en fait, si tout s'effrite, si ça s'écrase, si que ça a coulé, si les œufs, tu vois, se sont complètement écrabouillés au fond de ton sac. Je pense que c'est ça qui fait le charme.
Donc, en fait, ce qui fait vraiment du pique-nique un truc mythique, c'est que c'est aussi tout le lot de contraintes que ça renferme, parce que on l'a dit là, le charme aussi de ce qu'on va manger, c'est ce qu'on parvient à acheminer jusqu'à son lieu de pique-nique. À ce propos, je vais vous faire écouter une note vocale de l'une de nos auditrices. En fait, avant l'émission, on a lancé un petit jeu concours pour permettre à des auditeurs et des auditrices de participer à l'émission, donc un jeu concours sur la base de photos culinaires de pique-nique. On a deux gagnantes, dont celle que je vais vous faire écouter là tout de suite. Il s'agit de Loli, qui travaille dans la communication et qui habite à Paris et s'autoproclame reine des sandwichs. Alors, vous allez découvrir tout de suite pourquoi.
Avec mes parents, on a souvent traversé l'Europe en voiture et ils m'ont vraiment donné le goût du chemin des écoliers, les départementales et les nationales très loin des stations-service des autoroutes, parce que c'est des routes sur lesquelles on voit beaucoup plus de choses déjà. Et surtout, c'est des routes sur lesquelles on peut s'arrêter quand on veut pour déjeuner, à l'heure qu'on veut, sans avoir à se préoccuper du restaurant qu'on trouvera, parce qu'on peut facilement y pique-niquer. Donc à mes yeux, la quintessence du pique-nique, c'est vraiment les journées d'été, quelque part en France ou en Europe, au bord d'une rivière ou d'un petit château, avec notre grosse couverture bleue à carreaux qui nous piquait bien les jambes et qui était toujours présente dans le coffre de la voiture, et puis surtout le petit opinel rangé dans la boîte à gants. Les deux accessoires qui, à mon sens, sont indispensables pour les vacances parce qu'ils nous permettaient de pouvoir profiter de la nature et d'improviser un repas avec des produits simples et locaux qu'on achetait plutôt dans la journée en prévision de cette pause, comme du fromage ou de la charcuterie de la région, quelques fruits bien mûrs et ça suffisait. Du coup, quand je pense au pique-nique, c'est vraiment un sentiment de liberté qui me vient à l'esprit.
Qu'on se le dise, ce qu'il y a de chouette avec les pique-niques, c'est de découvrir une fois sur place ce que les autres ont ramené. Un peu comme lors des goûters de fin d'année à l'école, où il y avait les marmots au chocolat, les bonbons et les gâteaux au yaourt des camarades de classe. Par exemple, je suis toujours hyper contente d'apporter avec moi une bonne bouteille de vin et mes fameuses cassolettes en inox, souvent remplies de légumes marinés maison, de dadinhos, ces petits croquants de billes de tapioca au parmesan que l'on mange dans le nord du Brésil, ou encore les boulettes de riz gluant et des saucisses à la citronnelle. Mais je suis aussi super ravie de manger du fromage industriel qui s'effiloche, genre les Ficello, ou plonger ma main dans un paquet de Monster Munch ramené par le pote qui a fait une radia au supermarché juste avant. J'aime aussi cette coquetterie qui consiste à ramener des verres en verre et un peu de vaisselle. Pareil pour le réchaud en rando qui donne la possibilité de manger un mac and cheese en altitude, ou encore le couteau à huître pour se faire un petit apéro avec du vin blanc sur la plage. Discutons maintenant avec la géographe universitaire Francine Bardeloisy, qui a travaillé sur les pique-niques à travers le monde. Je lui ai demandé comment avait été accueillie l'idée d'un colloque sur un sujet de prime abord plutôt trivial.
D'abord, le sujet est passé pour dans le milieu universitaire comme une sorte de fantaisie un peu extravagante, absolument pas sérieuse. Et il a fallu vraiment argumenter, c'est-à-dire proposer un texte programmatique avec des axes, enfin comme on fait quand on fait un colloque sur n'importe quel type de sujet scientifique sérieux. Et là, il s'agissait du pique-nique. Et donc, je n'étais pas toute seule, on était une bonne dizaine rassemblés autour de ce point commun qu'était le pique-nique. Et il y avait des historiens de l'art, et en particulier un historien de l'art qui a travaillé sur l'évolution en fait des styles de peinture à travers le thème du pique-nique. Il a fait une sorte de lecture, on va pas dire depuis les grottes de Lascaux, parce que ça fait un peu, c'est un peu tôt hein, dans l'histoire des représentations picturales, mais depuis Bruegel, on va dire, où il est absolument pas encore question de pique-nique, puisque le mot n'existe pas, jusqu'à Picasso, qui reprend le déjeuner sur l'herbe de Monet. C'était très joyeux, très très léger, très très sympa de faire cette, enfin d'organiser autour du pique-nique. C'était vraiment un pique-nique scientifique aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on picorait les idées des uns et des autres. Enfin, c'était devenu une sorte de métaphore en action, quoi. C'était très marrant. Et du coup, on s'est dit qu'on avait inventé une nouvelle science qui s'appelait la pique-nicologie. Donc, on était ravis, quoi, parce que il y avait pas grand-chose au niveau. Il y avait des descriptions, il y avait des témoignages, il y avait des histoires, il y avait des représentations, mais il n'y avait pas grand-chose qui faisait, enfin, qui adoptait un point de vue un peu surplombant pour savoir, mais finalement, qu'est-ce qui fait le plus petit dénominateur commun de toutes ces cultures qui pique-niquent. Et d'ailleurs, à un moment donné, on s'était posé la question de savoir est-ce que finalement il y en a qui pique-niquent pas, tellement c'était une sorte d'évidence. Et finalement, oui, mais il a fallu aller les chercher. Et puis c'est vrai. Après, on rentre dans les explications anthropologiques qui sont liées à des tabous sur la nourriture essentiellement. Hein. C'est ça. Hein.
Alors, dans quel pays, par exemple, on ne pique-nique pas, et à l'inverse, dans quel autre pays l'art du pique-nique est quelque chose de très partagé?
Alors, en Europe, évidemment, ça vient de l'histoire, parce que le mot même, enfin le mot, il est partagé en Europe, hein. Mais si vous allez ailleurs, ça n'existe pas. Ou alors, c'est une transposition du mot anglais, qui s'écrit P-I-C-N-I-C en attaché, hein. En allemand, c'est C-K, et nous, c'est en deux mots. Bon, ça vient de l'étymologie du mot, mais où est-ce qu'on pique-nique pas? Bon, ben, c'est en gros, j'étais très étonnée parce que j'ai beaucoup travaillé au Brésil. J'étais très étonnée. Au Brésil, on ne pique-nique pas. Alors, je parle pas du sud du Brésil, c'est-à-dire la partie la plus européenne ou européanisée, blanche, on va dire, hein, du Brésil, São Paulo, bon, un petit peu moins Rio, mais toute la Santa Catarina, enfin toutes tous les États du sud du Brésil qui sont très européanisé, là on pique-nique et on retrouve même la déclinaison des pique-niques qu'on retrouve dans le monde, c'est-à-dire la célébration des cerisiers en fleurs dans la communauté japonaise de São Paulo. Pique-nique, organise un pique-nique à São Paulo quand les cerisiers sont en fleurs. C'est-à-dire qu'on a une transposition de la fête des cerisiers en fleurs du Japon qui s'organise sous la forme d'un pique-nique monstrueusement géant, avec du bruit, avec des sodas, avec des mets particuliers, enfin avec beaucoup de musique très forte, qu'on s'imagine que c'est un truc très de méditation et tout ça, mais c'est ultra festif, ultra bruyant, ultra jeune, ultra marrant, ultra déconnant, enfin bon.
Mais ce sera pas d'ailleurs le pique-nique où on va se chercher un coin isolé, ce sera vraiment le pique-nique au sens communion, de grands.
Ça, c'est très fêtes. Européen, ça. Le pique-nique où on va chercher son coin pour être tranquille, c'est très européen. Ça existe quasiment nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'en général, quand on va faire un pique-nique, surtout au Moyen-Orient, au Proche-Orient, je pense à l'Iran évidemment, parce qu'en Iran, c'est un art. Ça fait partie de l'art de vivre. C'est une fête nationale. tous les Iraniens du monde, de la diaspora iranienne, pique-nique le 13e jour de la nouvelle année, ça s'appelle Sezdebedar, le 13e jour de Nowruz, qui est la nouvelle année, et les Iraniens du monde entier pique-niquent ce jour-là. Et en Iran, tout le monde pique-nique, c'est des millions de gens dehors, avec des plats spéciaux, de la vaisselle spéciale. On amène, c'est si on compare avec le pique-nique Raphaël évoquait tout à l'heure, c'est l'expédition, quoi. C'est-à-dire qu'on a le tapis, le narguilé, la vaisselle spéciale. La vaisselle spéciale, c'est-à-dire c'est pas le plat en plastique ou en verre ou en je sais pas quoi recyclé, c'est la gamelle spéciale, ce sont des plats spéciaux avec des couleurs spéciales. Il faut que ça soit blanc, il faut que ça soit vert, avec des mets particuliers qu'on fait que pour ça. Il y a aussi des pique-niques qui se font, des pique-niques funéraires qui se font sur les tombes. Ça, c'est à Madagascar, par exemple. En Russie, on trouve ça aussi un peu, et évidemment aussi en Iran. Donc, on va pique-niquer sur les tombes pour donner à manger aux morts et manger avec les morts. Au Brésil, dans le Nord-Est, on ne pique-nique pas parce que tout simplement, ça s'apparente à on n'est pas des misérables. On ne s'installe pas dehors. On ne se pose pas par terre. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on se poserait par terre ? Certainement pas dans les parcs publics parce que les grands parcs publics sont tous avec des restaurants. C'est-à-dire qu'on va, quand on va manger au restaurant, on va manger dans un parc en fait. En Inde, parce qu'il y a beaucoup de tabous sur la nourriture. Donc en Inde, moi quand on présentait cet ouvrage là, il y avait un spécialiste de l'Inde et de l'alimentation en Inde qui disait mais on fait jamais de pique-nique.
Et historiquement, est-ce que le pique-nique c'est une activité qui a été particulièrement associée à une couche sociale plus qu'une autre, ou alors on a toujours pique-niqué quel que soit son rang dans la société?
Le mot pique-nique, il n'existe pas dans le vocabulaire avant le XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, il ne s'emploie pas du tout comme on l'emploie aujourd'hui. C'est dans les caractères de la Bruyère que pour la première fois, on voit le mot apparaître. Ce qui ne signifie pas que la pratique n'existe pas déjà, hein, mais le mot. Donc là, ça veut dire, et on ne dit pas faire un pique-nique, on dit manger à pique-nique. Et ça signifie que, c'est des mauvaises manières, en fait. Un homme qui mange à pique-nique, c'est un homme qui, en fait, on dirait aujourd'hui, se tape l'incruste un peu chez les uns, chez les autres, quoi. C'est la première fois qu'on voit le mot en France, hein. Alors, on le retrouve déjà dans les tableaux, hein, les pique-niques, mais on parle pas de pique-nique. On dit, il y a les déjeuners à l'huître, les déjeuners de jambon, etc., qu'on retrouve dans les tableaux, mais c'est jamais indiqué pique-nique. On est au 17e, hein. Donc, voyez le genre repas champêtre, trait avec les grandes robes, les grands chapeaux, les serviteurs, la vaisselle d'argent, enfin, vous voyez le style. Donc, à ce moment-là, ça part en Angleterre et en France, ça revient en France où on parle de souper à pique-nique ou de manger à pique-nique, qui signifie manger hors de chez soi, mais pas manger en plein air. C'est on mange hors de chez soi. Et du coup, au fil du temps, au 19e, manger hors de chez soi devient manger hors de chez soi, dehors. Donc, ça devient manger en plein air. Mais vous voyez, il y a un long cheminement comme ça. Donc, pour revenir à votre question, depuis le Moyen-Âge, on va dire, Moyen-Âge et puis peut-être Renaissance avec la cour des Médicis aux Tuileries, déjà, il y a des représentations de banquets ou de déjeuner, de pause restaurante, de parties de chasse, de repas champêtres qui se font dans les Tuileries. Ça, c'est représenté dans la peinture. On a les deux versants, hein, du pique-nique. Le versant paysan, rural, pause restaurante dans la journée de travail. L'amusement d'une aristocratie ou d'une grande bourgeoisie qui a sa vaisselle d'argent, les cristaux, le personnel, etc. Et après, ça s'hybride, je dirais, avec des nouveautés qui arrivent avec les changements de société.
Le développement des chemins de fer. Voilà,
c'est le 19e, hein, c'est… en gros, là, le pique-nique prend un essor complètement incroyable. D'ailleurs, il est peint énormément et ensuite photographié énormément, jusqu'en 36 avec le Front Populaire, par exemple. Mais ça commence avant, avec le chemin de fer qui permet de partir, de s'éloigner des grandes villes, et en particulier de Paris. Il n'y a quand même pas que Paris. Il y a la journée de repos hebdomadaire du dimanche, qui n'existait pas avant le 19e. Donc, on a une journée de repos et donc, on prend le train pour aller à la campagne, dans la nature, etc. Et le troisième point, c'est l'hygiénisme de l'époque, c'est-à-dire que la ville, c'est les maladies, la tuberculose, je sais pas quoi, enfin les grandes maladies, les miasmes de la ville, les puanteurs, les fumées, etc. Donc faut sortir de la ville, faut aller sur les bords de l'eau.
Alors après sur on les bords de Marne, par exemple, autour de Paris.
On va avoir les guinguettes, on va avoir etc. Et après on va aller de plus en plus loin en fait, hein.
Ce qui d'ailleurs est en train de changer aujourd'hui, puisque désormais on aime pique-niquer aussi dans ces villes qui sont aujourd'hui plus saines, où il y a des parcs. Aujourd'hui, ça peut être une pratique qu'on observe de plus en plus aussi, les gens qui vont prendre leur petit baluchon et s'installer au bord des canaux.
Bah maintenant, la pratique, c'est l'inverse. Il y a beaucoup moins de pique-niques. Comme je viens de vous les décrire, hein. C'est-à-dire qu'on prend pas le train avec son pique-nique pour aller, on préfère à pied marcher un peu et trouver. Alors il y a les attributs du bon pique-nique, quoi. Il y a l'ombre. Alors ça dépend des cultures, hein. C'est très rigolo parce que nous on a nos attributs à nous et puis ailleurs c'est d'autres, hein. Mais on a la présence de l'eau. D'une rivière, d'un canal, etc. Le vert, l'herbe, parce que quand on dit la nature, ça dépend qui parle, hein, pour la nature. Par exemple, les Iraniens, il n'y a pas de vert, quoi, parce que leur pays est très désertique. Donc c'est l'eau, la présence de l'eau et entendre l'eau, c'est très important.
Merci beaucoup, Francine. J'enchaîne en vous faisant écouter la note vocale de Emma. Emma qui travaille dans le secteur des activités en pleine nature et qui partage sa vie entre Paris et Amsterdam. Emma donc nous explique ce qu'elle aime avec les pique-niques. Je vous fais écouter ça tout de suite.
Alors, je pense que mon expérience du pique-nique est conditionnée par le domaine dans lequel je travaille, qui est celui des sports outdoor, parce que le pique-nique fait partie intégrante de ce monde-là, en fait. Quand t'es grimpeur, surfeur ou randonneur, il y a forcément un moment au milieu de ta journée d'effort où tu dois te poser pour casser la croûte en pleine nature. Et donc, quand tu me dis pique-nique, il y a deux choses auxquelles je pense immédiatement et qui, pour moi, changent la valeur d'un pique-nique. C'est le mérite, parce que selon moi, un pique-nique a toujours meilleur goût après un effort. Et c'est la connexion avec le lieu, au sens où c'est super agréable de manger des produits locaux. Et c'est aussi très important de respecter le lieu dans lequel on pique-nique en ne laissant rien derrière soi pour pouvoir y revenir peut-être plus tard et aussi pour que d'autres personnes puissent l'apprécier. Un de mes meilleurs souvenirs de pique-nique qui illustre très bien ça, c'était il y a quelques années sur le GR20 en Corse avec trois copains, quand après 4-5 heures de marche sous 30 degrés, on trouvait un petit ruisseau d'eau glacée à l'ombre, on enlevait nos chaussures et on sortait notre miche de pain de seigle, tu sais, parce que en randonnée, l'équation poids, volume, apport nutritif est assez décisive dans ton choix d'aliments. Et on sortait notre morceau de fromage corse, on coupait un melon en deux, hop, quelques noix de cajou, et là, c'était le pied absolu, quoi. Donc je trouve que pendant les pique-niques, tu fais vraiment l'expérience de la simplicité, mais ça en fait des moments super riches.
Si
Si comme Emma, vous souhaitez laisser vos coins de pique-nique aussi propres que vous les avez trouvés, n'hésitez pas à adopter ces quelques réflexes simples pour ne pas générer de déchets. Privilégiez la cuisine maison aux produits industriels pour éviter les emballages plastiques, emportez vos aliments dans des contenants réutilisables et ramenez des serviettes en tissu lavable. Gourdes en inox, paniers, boîtes en plastique, au XXe siècle, avec l'essor des loisirs, la société de consommation a accouché de ces produits en série comme une promesse de maximiser le confort des repas pris à l'extérieur. Mais depuis, on en trouve des versions plus écologiques, notamment fabriquées à partir de matières recyclées. Pour le reste, n'oubliez pas d'avoir avec vous un sac poubelle afin de facilement rassembler vos déchets. Avec Francine Bardeloisy, on a également discuté du tableau « Le déjeuner sur l'herbe » de Claude Monet, peint en 1865. À l'époque, celui qui est classiquement considéré comme le père de l'impressionnisme fait le choix osé de peindre un sujet moderne, une scène de pique-nique en forêt, dans un très grand format, de plusieurs mètres de long et de large, habituellement réservé à la peinture d'histoire. Merci à Raphaël Marchal, Francine Bardeloisy, Loli Dario et Emma Cranier de m'avoir donné de leur temps pour parler de pique-nique. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison 3 de Bouffon. Toute l'équipe remercie chaleureusement Cassandra de Carvalho, Mathilde Vinet, Clara Maté et Ségolène Moncel, les stagiaires qui ont rejoint Nouvelles Écoutes lors de cette saison et ont aidé à fabriquer Bouffon ces derniers mois avec talent et créativité. Auditeurs, auditrices, on vous souhaite un joyeux été. Profitez-en pour écouter les épisodes que vous avez peut-être manqués cette année et n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de suggestions de sujets. On a hyper hâte de vous retrouver à la rentrée pour vous présenter ce que sera la 4e saison de Bouffon. Bouffon est une émission de Nouvelles Écoutes portée par moi, Émilie Listari, montée par Marine Rowe, programmée par Clara Maté, mixée par Thomas Decour et coordonnée par Laura Cuissard. Rendez-vous au mois de septembre !